Ce premier jour où je le vis chez les parents de Gilberte, je racontais à Bergotte que j'avais entendu récemment la Berma dans Phèdre. Il me dit que dans la scène où elle reste le bras levé à la hauteur de l'épaule, précisément une des scènes où on avait tant applaudi, elle avait su évoquer, avec un art très noble, des chefs-d'œuvre qu'elle n'avait peut-être d'ailleurs jamais vus. Une Hespéride qui fait ce geste sur une métope d'Olympie, et aussi les belles vierges de l'ancien Érechtheion. C'est peut-être une divination. Je me figure pourtant qu'elle va dans les musées. Ce serait intéressant à repérer. Repérer était une des expressions habituelles à Bergotte et que tels jeunes gens qui ne l'avaient jamais rencontré lui avaient prise, parlant comme lui par une sorte de suggestion à distance. Vous pensez aux cariatides ? Demanda Swann. Non, non, dit Bergotte, sauf dans la scène où elle avoue sa passion à Œnon et où elle fait avec la main le mouvement des guézots dans la stèle du céramique. C'est un art bien plus ancien qu'elle ranime. Je parlais des corails de l'ancienne Érechtheion, et je reconnais qu'il n'y a peut-être rien qui soit aussi loin de l'art de Racine, mais il y a déjà tant de choses dans Phèdre. Une de plus. Oh, et puis si, elle est bien jolie, la petite Phèdre du VIe siècle. La verticalité du bras, la boucle du cheveu qui fait marbre. Si, tout de même, c'est très fort d'avoir trouvé tout ça. Il y a là beaucoup plus d'antiquité que dans bien des livres qu'on appelle cette année antique. Comme Bergotte avait adressé dans un de ses livres une invocation célèbre à ces statues archaïques, les paroles qu'il prononçait en ce moment étaient fort claires pour moi et me donnaient une nouvelle raison de m'intéresser au jeu de la Berma. Je tâchais de la revoir dans mon souvenir, telle qu'elle avait été dans cette scène où je me rappelais qu'elle avait élevé le bras à hauteur de l'épaule. Et je me disais, voilà l'Hespéride d'Olympie, voilà la sœur d'une de ces admirables orantes de l'Acropole, voilà ce que c'est qu'un art noble. Mais pour que ces pensées puissent m'embellir le geste de la Berma, il aurait fallu que Bergotte me les eût fournis avant la représentation. Alors, pendant que cette attitude de l'actrice existait effectivement devant moi, à ce moment où la chose qui a lieu a encore la plénitude de la réalité, j'aurais pu essayer d'en extraire l'idée de sculpture archaïque. Mais de la Berma dans cette scène, ce que je gardais, c'était un souvenir qui n'était plus modifiable. Mince comme une image dépourvue de ces dessous profonds du présent qui se laisse creuser et d'où l'on peut tirer véridiquement quelque chose de nouveau, une image à laquelle on ne peut imposer rétroactivement une interprétation qui ne serait plus susceptible de vérification, de sanction objective. Pour se mêler à la conversation, Madame Swann me demanda si Gilberte avait pensé à me donner ce que Bergotte avait écrit sur Phèdre. « J'ai une fille si étourdie, » ajouta-t-elle. Bergotte eut un sourire de modestie et protesta que c'était des pages sans importance. « Mais si, c'est ravissant ce petit opuscule, ce petit tract, » dit Madame Swann pour se montrer bonne maîtresse de maison, pour faire croire qu'elle avait lu la brochure, et aussi parce qu'elle n'aimait pas seulement complimenter Bergotte, mais faire un choix entre les choses qu'il écrivait, le diriger. Et à vrai dire, elle l'inspira, d'une autre façon du reste qu'elle ne crut. Mais enfin, il y a entre ce que fut l'élégance du salon de Madame Swann et tout un côté de l'œuvre de Bergotte, des rapports tels que chacun des deux peut être alternativement, pour les vieillards d'aujourd'hui, un commentaire de l'autre. Je me laissais aller à raconter mes impressions. Souvent Bergotte ne les trouvait pas justes, mais il me laissait parler. Je lui dis que j'avais aimé cet éclairage vert qu'il y a au moment où Phèdre lève le bras. « Ah, vous feriez très plaisir au décorateur qui est un grand artiste. Je le lui raconterai parce qu'il est très fier de cette lumière-là. Moi, je dois dire que je ne l'aime pas beaucoup. Ça baigne tout dans une espèce de machine glauque. La petite Phèdre là-dedans fait trop branche de corail au fond d'un aquarium. Vous direz que ça fait ressortir le côté cosmique du drame, ça, c'est vrai. » Tout de même, ce serait mieux pour une pièce qui se passerait chez Neptune. Je sais bien qu'il y a là de la vengeance de Neptune. Mon Dieu, je ne demande pas qu'on ne pense qu'à Port-Royal, mais enfin, tout de même, ce que Racine a raconté, ce ne sont pas les amours des oursins. Mais enfin, c'est ce que mon ami a voulu et c'est très fort tout de même. Et au fond, c'est assez joli. Oui, enfin, vous avez aimé ça. Vous avez compris. N'est-ce pas? Au fond, nous pensons de même là-dessus. C'est un peu insensé ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est très intelligent. Et quand la vie de Bergotte était ainsi contraire au mien, il ne me réduisait nullement au silence, à l'impossibilité de rien répondre comme eût fait celui de M. de Norpois. Cela ne prouve pas que les opinions de Bergotte fussent moins valables que celles de l'ambassadeur. Au contraire, une idée forte communique un peu de sa force au contradicteur. Participant à la valeur universelle des esprits, elle s'insère, se greffe en l'esprit de celui qu'elle réfute, au milieu d'idées adjacentes, à l'aide desquelles, reprenant quelque avantage, il la complète, la rectifie, si bien que la sentence finale est en quelque sorte l'œuvre des deux personnes qui discutaient. C'est aux idées qui ne sont pas, à proprement parler, des idées, aux idées qui, ne tenant à rien, ne trouvent aucun point d'appui, aucun rameau fraternel dans l'esprit de l'adversaire, que celui-ci, aux prises avec le pur vide, ne trouve rien à répondre. Les arguments de M. de Norpois, en matière d'art, étaient sans réplique parce qu'ils étaient sans réalité. Bergotte n'écartant pas mes objections, je lui avouai qu'elles avaient été méprisées par M. de Norpois. « Mais c'est un vieux serin, » répondit-il. « Il vous a donné des coups de bec parce qu'il croit toujours avoir devant lui un échaudé ou une sèche. »« Comment ? Vous connaissez Norpois ?» me dit Swann. « Oh, il est ennuyeux comme la pluie !» interrompit sa femme qui avait grande confiance dans le jugement de Bergotte et craignait sans doute que M. de Norpois ne nous eût dit du mal d'elle. « J'ai voulu causer avec lui après le dîner. Je ne sais pas si c'est l'âge ou la digestion, mais je l'ai trouvé d'un vaseux. Il semble qu'on aurait eu besoin de le doper. »« Oui, n'est-ce pas ?» dit Bergotte. « Il est bien obligé de se taire assez souvent pour ne pas épuiser avant la fin de la soirée la provision de sottises qui empèse le jabot de la chemise et maintiennent le gilet blanc. » « Je trouve Bergotte et ma femme bien sévères, » dit Swann qui avait pris chez lui l'emploi d'homme de bon sens. « Je reconnais que Norpois ne peut pas vous intéresser beaucoup, mais à un autre point de vue, car Swann aimait à recueillir les beautés de la vie, il est quelqu'un d'assez curieux comme amant. » Quand il était secrétaire à Rome, ajouta-t-il, après s'être assuré que Gilberte ne pouvait pas entendre, il avait à Paris une maîtresse dont il était éperdu, et il trouvait le moyen de faire le voyage deux fois par semaine pour l'avoir 2 heures. C'était du reste une femme très intelligente et ravissante à ce moment-là. C'est une douairière maintenant. Et il en a eu beaucoup d'autres dans l'intervalle. Moi, je serais devenu fou s'il avait fallu que la femme que j'aimais habite à Paris pendant que j'étais retenu à Rome. Pour les gens nerveux, il faudrait toujours qu'ils aimassent, comme disent les gens du peuple, au-dessous d'eux, afin qu'une question d'intérêt mît la femme qu'ils aiment à leur discrétion. » À ce moment, Swann s'aperçut de l'application que je pouvais faire de cette maxime à lui et à Odette. Et comme, même chez les êtres supérieurs, au moment où il semble planer avec vous au-dessus de la vie, l'amour-propre reste mesquin, il fut pris d'une grande mauvaise humeur contre moi. Mais cela ne se manifesta que par l'inquiétude de son regard. Il ne me dit rien au moment même. Il ne faut pas trop s'en étonner, quand Racine, selon un récit d'ailleurs qu'on trouvait, mais dont la matière se répète tous les jours dans la vie de Paris, fit allusion à Scarron devant Louis XIV, le plus puissant roi du monde ne dit rien le soir même au poète, et c'est le lendemain que celui-ci tomba en disgrâce. Mais comme une théorie désire d'être exprimée entièrement, Swann, après cette minute d'irritation, et, ayant essuyé le verre de son monocle, compléta sa pensée en ces mots qui devaient plus tard prendre dans mon souvenir la valeur d'un avertissement prophétique et duquel je ne suis pas tenir compte. Cependant, le danger de ce genre d'amour est que la suggestion de la femme calme un moment la jalousie de l'homme, mais la rend aussi plus exigeante. Il arrive à faire vivre sa maîtresse comme ces prisonniers qui sont jour et nuit éclairés pour être mieux gardés, et cela finit généralement par des drames. Je revins à M. de Norpois. Ne vous y fiez pas. Il est au contraire très mauvaise langue, » dit Madame Swann avec un accent qui me parut d'autant plus signifié que M. de Norpois avait mal parlé d'elle, que Swann regarda sa femme d'un air de réprimande et comme pour l'empêcher d'en dire davantage. Cependant, Gilberte, qu'on avait déjà prié deux fois d'aller se préparer pour sortir, restait à nous écouter, entre sa mère et son père, à l'épaule duquel elle était câlinement appuyée. Rien, au premier aspect, ne faisait plus contraste avec Madame Swann, qui était brune, que cette jeune fille à la chevelure rousse, à la peau dorée. Mais au bout d'un instant, on reconnaissait en Gilberte bien des traits, par exemple le nez arrêté avec une brusque et infaillible décision par le sculpteur invisible qui travaille de son ciseau pour plusieurs générations, l'expression, les mouvements de sa mère. Pour prendre une comparaison dans un autre art, elle avait l'air d'un portrait peu ressemblant encore de Madame Swann, que le peintre, par un caprice de coloriste, eût fait poser à demi déguisée, prête à se rendre à un dîner de tête, en vénitienne. Et comme elle n'avait pas qu'une perruque blonde, mais que tout atome sombre avait été expulsé de sa chair, laquelle, dévêtue de ses voiles bruns, semblait plus nue, recouverte seulement des rayons dégagés par un soleil intérieur, le grimage n'était pas que superficiel, mais incarné. Gilberte avait l'air de figurer quelque animal fabuleux ou de porter un travesti mythologique. Cette peau rousse, c'était celle de son père, au point que la nature semblait avoir eu, quand Gilberte avait été créée, à résoudre le problème de refaire peu à peu Madame Swann, en n'ayant à sa disposition comme matière que la peau de Monsieur Swann. Et la nature l'avait utilisée parfaitement, comme un maître huchier qui tient à laisser apparent le grain, les nœuds du bois. Dans la figure de Gilberte, au coin du nez d'Odette parfaitement reproduit, la peau se soulevait pour garder intacts les deux grains de beauté de Monsieur Swann. C'était une nouvelle variété de Madame Swann qui était obtenue là, à côté d'elle, comme un lilas blanc près d'un lilas violet. Il ne faudrait pourtant pas se représenter la ligne de démarcation entre les deux ressemblances comme absolument nette. Par moments, quand Gilberte riait, on distinguait l'ovale de la joue de son père dans la figure de sa mère, comme si on les avait mis ensemble pour voir ce que donnerait le mélange. Cet ovale se précisait comme un embryon se forme. Il s'allongeait obliquement, se gonflait. Au bout d'un instant, il avait disparu. Dans les yeux de Gilberte, il y avait le bon regard franc de son père. C'est celui qu'elle avait eu quand elle m'avait donné la bille d'agate et m'avait dit « Gardez-la en souvenir de notre amitié ». Mais posait-on à Gilberte une question sur ce qu'elle avait fait, alors on voyait dans ses mêmes yeux l'embarras, l'incertitude, la dissimulation, la tristesse qu'avait autrefois Odette quand Swann lui demandait où elle était allée et qu'elle lui faisait une de ces réponses mensongères qui désespéraient l'amant et maintenant lui faisait brusquement changer la conversation en mari incurieux et prudent. Souvent aux Champs-Élysées, j'avais été inquiet en voyant ce regard chez Gilberte, mais la plupart du temps c'était à tort, car chez elle, survivance toute physique de sa mère, ce regard, celui-là du moins, ne correspondait plus à rien. C'est quand elle était allée à son cours, quand elle devait rentrer pour une leçon, que les pupilles de Gilberte exécutaient ce mouvement qui, jadis, sans les yeux d'Odette, était causée par la peur de révéler qu'elle avait reçu dans la journée un de ses amants ou qu'elle était pressée de se rendre à un rendez-vous. Telle on voyait ces deux natures de monsieur et de madame Swann ondulées, refluées, empiétées tour à tour l'une sur l'autre dans le corps de cette Mélusine. Sans doute on sait bien qu'un enfant tient de son père et de sa mère. Encore la distribution des qualités et des défauts dont il hérite se fait-elle si étrangement que, de deux qualités qui semblaient inséparables chez un de ses parents, on ne trouve plus que l'une chez l'enfant, et alliée à celui des défauts de l'autre parent qui semblait inconciliable avec elle. Même l'incarnation d'une qualité morale dans un défaut physique incompatible est souvent une des lois de la ressemblance filiale. de deux sœurs, l'une aura, avec la fière stature de son père, l'esprit mesquin de sa mère, l'autre, toute remplie de l'intelligence paternelle, la présentera au monde sous l'aspect qu'a sa mère. De sa mère, le gros nez, le ventre noueux et jusqu'à la voix, sont devenus les vêtements de don qu'on connaissait sous une apparence superbe. De sorte que de chacune des deux sœurs, on peut dire avec autant de raison que c'est elle qui tient le plus de tel de ses parents. Il est vrai que Gilberte était fille unique, mais il y avait au moins deux Gilbertes. Les deux natures, de son père et de sa mère, ne faisaient pas que se mêler en elle, elle se la disputait, et encore ce serait parler inexactement et donner à supposer qu'une troisième Gilberte souffrait pendant ce temps-là d'être la proie des deux autres. Or Gilberte était tour à tour l'une, puis l'autre, et à chaque moment rien de plus que l'une, c'est-à-dire incapable, quand elle était moins bonne, d'en souffrir, la meilleure Gilberte ne pouvant alors, du fait de son absence momentanée, constater cette déchéance. Aussi, la moins bonne des deux était-elle libre de se réjouir de plaisirs peu nobles. Quand l'autre parlait avec le cœur de son père, elle avait des vues larges. On aurait voulu conduire avec elle une belle et bienfaisante entreprise, on le lui disait. Mais au moment où l'on allait conclure, le cœur de sa mère avait déjà repris son tour. Et c'est lui qui vous répondait. Et on était déçu et irrité, presque intrigué comme devant une substitution de personne, par une réflexion mesquine, un ricanement fourbe où Gilberte se complaisait, car il sortait de ce qu'elle-même était à ce moment-là. L'écart était même parfois tellement grand entre les deux Gilbertes qu'on se demandait vainement du reste ce qu'on avait pu lui faire pour la retrouver si différente. Le rendez-vous qu'elle vous avait proposé, non seulement elle n'y était pas venue et ne s'excusait pas ensuite, mais, quelle que fût l'influence qui eût pu faire changer sa détermination, elle se montrait si différente ensuite qu'on aurait cru que, victime d'une ressemblance comme celle qui fait le fond des ménechmes, on n'était pas devant la personne qui vous avait si gentiment demandé à vous voir, si elle ne vous eût témoigné une mauvaise humeur qui décelait qu'elle se sentait en faute et désirait éviter les explications. « Allons, va, tu vas nous faire attendre, » lui dit sa mère. « Je suis si bien près de mon petit papa, je veux rester encore un moment, » répondit Gilberte en cachant sa tête sous le bras de son père qui passa tendrement les doigts dans la chevelure blonde. Swann était de ces hommes qui, ayant vécu longtemps dans les illusions de l'amour, ont vu le bien-être qu'ils ont donné à nombre de femmes accroître le bonheur de celles-ci sans créer de leur part aucune reconnaissance, aucune tendresse envers eux. Mais dans leur enfant, ils croient sentir une affection qui, incarnée dans leur nom même, les fera durer après leur mort. Quand il n'y aurait plus de Charles Swann, il y aurait encore une Mademoiselle Swann ou une Madame X, née Swann, qui continuerait à aimer le père disparu. Même à l'aimer trop, peut-être, pensait sans doute Swann, car il répondit à Gilberte, « Tu es une bonne fille. » De ce ton attendri par l'inquiétude que nous inspire pour l'avenir, la tendresse trop passionnée d'un être destiné à nous survivre. Pour dissimuler son émotion, il se mêla à notre conversation sur la Berma. Il me fit remarquer, mais d'un ton détaché, ennuyé, comme s'il voulait rester en quelque sorte en dehors de ce qu'il disait, avec quelle intelligence, quelle justesse imprévue l'actrice disait à Eunon « Tu le savais ?» Il avait raison. Cette intonation-là, du moins, avait une valeur vraiment intelligible et aurait dû par là satisfaire à mon désir de trouver des raisons irréfutables d'admirer la Berma. Mais c'est à cause de sa clarté même qu'elle ne le contentait point. L'intonation était si ingénieuse, d'une intention, d'un sens si défini, qu'elle semblait exister en elle-même et que tout artiste intelligent eût pu l'acquérir. C'était une belle idée, mais quiconque la concevrait aussi pleinement la posséderait de même. Il restait à la Berma qu'elle l'avait trouvée. Mais peut-on employer ce mot de « trouver » quand il s'agit de quelque chose qui ne serait pas différent si on l'avait reçu, quelque chose qui ne tient pas essentiellement à votre être, puisqu'un autre peut ensuite le reproduire. Mon Dieu, mais comme votre présence élève le niveau de la conversation, me dit, comme pour s'excuser auprès de Bergotte, Swann, qui avait pris dans le milieu Guermantes l'habitude de recevoir les grands artistes comme de bons amis à qui on cherche seulement à faire manger les plats qu'ils aiment, jouer aux jeux ou, à la campagne, se livrer aux sports qui leur plaisent. Il me semble que nous parlons bien d'art, ajouta-t-il. C'est très bien, j'aime beaucoup ça, dit Madame Swann en me jetant un regard reconnaissant, par bonté aussi parce qu'elle avait gardé ses anciennes aspirations vers une conversation plus intellectuelle. Ce fut ensuite à d'autres personnes, à Gilberte en particulier, que parla Bergotte. J'avais dit à celui-ci tout ce que je ressentais avec une liberté qui m'avait étonnée et qui tenait à ce qu'ayant pris avec lui depuis des années, au cours de tant d'heures de solitude et de lecture où il n'était pour moi que la meilleure partie de moi-même, l'habitude de la sincérité, de la franchise, de la confiance. Il m'intimidait moins qu'une personne avec qui j'aurais causé pour la première fois. Et cependant, pour la même raison, j'étais fort inquiet de l'impression que j'avais dû produire sur lui, le mépris que j'avais supposé qu'il aurait pour mes idées ne datant pas d'aujourd'hui, mais des temps déjà anciens où j'avais commencé à lire ses livres dans notre jardin de Combray. J'aurais peut-être dû me dire pourtant que, puisque c'était sincèrement, en m'abandonnant à ma pensée, que, d'une part, j'avais tant sympathisé avec l'œuvre de Bergotte, et que, d'autre part, j'avais éprouvé au théâtre un désappointement dont je ne connaissais pas les raisons, ces deux mouvements instinctifs qui m'avaient entraîné ne devaient pas être si différents l'un de l'autre, mais obéir aux mêmes lois, et que cet esprit de Bergotte que j'avais aimé dans ses livres ne devait pas être quelque chose d'entièrement étranger et hostile à ma déception et à mon incapacité de l'exprimer. Car mon intelligence devait être une, et peut-être même n'en existe-t-il qu'une seule dont tout le monde est colocataire, une intelligence sur laquelle chacun, du fond de son corps particulier, porte ses regards comme au théâtre où, si chacun a sa place, en revanche, il n'y a qu'une seule scène. Sans doute les idées que j'avais le goût de chercher à démêler n'étaient pas celles qu'approfondissait d'ordinaire Bergotte dans ses livres. Mais si c'était la même intelligence que nous avions, lui et moi, à notre disposition, il devait, en me les entendant exprimer, se les rappeler, les aimer, leur sourire, gardant probablement, malgré ce que je supposais, devant son œil intérieur, une toute autre partie de l'intelligence que celle dont une découpure avait passé dans ses livres et d'après laquelle j'avais imaginé tout son univers mental. De même que les prêtres ayant la plus grande expérience du cœur peuvent le mieux pardonner aux péchés qu'ils ne commettent pas, de même le génie ayant la plus grande expérience de l'intelligence peut le mieux comprendre les idées qui sont le plus opposées à celles qui forment le fond de ses propres œuvres. J'aurais dû me dire tout cela, qui d'ailleurs n'a rien de très agréable, car la bienveillance des hauts esprits a pour corollaire l'incompréhension et l'hostilité des médiocres. Or, on est beaucoup moins heureux de l'amabilité d'un grand écrivain, qu'on trouve à la rigueur dans ses livres, qu'on ne souffre de l'hostilité d'une femme qu'on n'a pas choisie pour son intelligence, mais qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. J'aurais dû me dire tout cela, mais ne le disais pas. J'étais persuadée que j'avais paru stupide à Bergotte, quand Gilberte me chuchota à l'oreille « Je nage dans la joie parce que vous avez fait la conquête de mon grand ami Bergotte. Il a dit à maman qu'il vous avait trouvé extrêmement intelligent. »« Où allons-nous ? » demandai-je à Gilberte. « Oh, où on voudra, moi, vous savez, aller ici ou là. » Mais depuis l'incident qui avait eu lieu le jour de l'anniversaire de la mort de son grand-père, je me demandais si le caractère de Gilberte n'était pas autre que ce que j'avais cru, si cette indifférence à ce qu'on ferait, cette sagesse, ce calme, cette douce soumission constante, ne cachait pas au contraire des désirs très passionnés que, par amour-propre, elle ne voulait pas laisser voir et qu'elle ne révélait que par sa soudaine résistance quand ils étaient par hasard contrariés. Comme Bergotte habitait dans le même quartier que mes parents, nous partîmes ensemble. En voiture, il me parla de ma santé. « Nos amis m'ont dit que vous étiez souffrant, je vous plains beaucoup. » Et puis, malgré cela, je ne vous plains pas trop parce que je vois bien que vous devez avoir les plaisirs de l'intelligence. Et c'est probablement ce qui compte surtout pour vous, comme pour tous ceux qui les connaissent. Hélas, ce qu'il disait là, combien je sentais que c'était peu vrai pour moi que tout raisonnement, si élevé qu'il fût, laissait froid, qui n'étais heureux que dans des moments de simple flânerie, quand j'éprouvais du bien-être. Je sentais combien ce que je désirais dans la vie était purement matériel, et avec quelle facilité je me serais passé de l'intelligence. Comme je ne distinguais pas entre les plaisirs ceux qui me venaient de sources différentes, plus ou moins profondes et durables, je pensais, au moment de lui répondre, que j'aurais aimé une existence où j'aurais été lié avec la duchesse de Guermantes, et où j'aurais souvent senti, comme dans l'ancien bureau d'octroi des Champs-Élysées, une fraîcheur qui m'eût rappelé Combray. Or, dans cet idéal de vie que je n'osais lui confier, les plaisirs de l'intelligence ne tenaient aucune place. Non, monsieur, les plaisirs de l'intelligence sont bien peu de choses pour moi. Ce n'est pas eux que je recherche, je ne sais même pas si je les ai jamais goûtés. Vous croyez vraiment, me répondit-il. Eh bien, écoutez, si, tout de même, cela doit être cela que vous aimez le mieux. Moi, je me le figure. Voilà ce que je crois. Il ne me persuadait certes pas. Pourtant, je me sentais plus heureux, moins à l'étroit. À cause de ce que m'avait dit M. de Norpois, j'avais considéré mes moments de rêverie, d'enthousiasme, de confiance en moi, comme purement subjectifs et sans vérité. Or, selon Bergotte, qui avait l'air de connaître mon cas, il semblait que le symptôme à négliger, c'était au contraire mes doutes, mon dégoût de moi-même. Surtout, ce qu'il avait dit de M. de Norpois ôtait beaucoup de sa force à une condamnation que j'avais crue sans appel. « Êtes-vous bien soigné ? » me demanda Bergotte. « Qui est-ce qui s'occupe de votre santé ?» Je lui dis que j'avais vu et reverrais sans doute Cottard. « Mais ce n'est pas ce qu'il vous faut, » me répondit-il. « Je ne le connais pas comme médecin, mais je l'ai vu chez Mme Swann. C'est un imbécile. » À supposer que cela n'empêche pas d'être un bon médecin, ce que j'ai peine à croire, cela empêche d'être un bon médecin pour artistes, pour gens intelligents. Les gens comme vous ont besoin de médecins appropriés, je dirais presque de régimes, de médicaments particuliers. Cottard vous ennuiera, et rien que l'ennui empêchera son traitement d'être efficace. Et puis ce traitement ne peut pas être le même pour vous que pour un individu quelconque. Les trois quarts du mal des gens intelligents viennent de leur intelligence. Il leur faut au moins un médecin qui connaisse ce mal-là. Comment voulez-vous que Cottard puisse vous soigner ? Il a prévu la difficulté de digérer les sauces, l'embarras gastrique, mais il n'a pas prévu la lecture de Shakespeare. Aussi, ses calculs ne sont plus justes avec vous. L'équilibre est rompu. C'est toujours le petit Ludion qui remonte. Il vous trouvera une dilatation de l'estomac. Il n'a pas besoin de vous examiner puisqu'il l'a d'avance dans son œil. Vous pouvez la voir. Elle se reflète dans son lorgnon. Cette manière de parler me fatiguait beaucoup. Je me disais avec la stupidité du bon sens, il n'y a pas plus de dilatation de l'estomac reflétée dans le lorgnon du professeur Cottard que de sottises cachées dans le gilet blanc de M. de Norpois. Je vous conseillerais plutôt, poursuivit Bergotte, le docteur du Boulbon, qui est tout à fait intelligent. C'est un grand admirateur de vos œuvres, lui répondis-je. Je vis que Bergotte le savait et j'en conclus que les esprits fraternels se rejoignent vite, qu'on a peu de vrais amis inconnus. Ce que Bergotte me dit au sujet de Cottard me frappa, tout en étant contraire à tout ce que je croyais. Je ne m'inquiétais nullement de trouver mon médecin ennuyeux. J'attendais de lui que, grâce à un art dont les lois m'échappaient, il rendît au sujet de ma santé un indiscutable oracle en consultant mes entrailles. Et je ne tenais pas à ce que, à l'aide d'une intelligence où j'aurais pu le suppléer, il cherchât à comprendre la mienne, que je ne me représentais que comme un moyen, indifférent en soi-même, de tâcher d'atteindre des vérités extérieures. Je doutais beaucoup que les gens intelligents eussent besoin d'une autre hygiène que les imbéciles, et j'étais tout prêt à me soumettre à celle de ces derniers. Quelqu'un qui aurait besoin d'un bon médecin, c'est notre ami Swann, dit Bergotte. Et comme je demandais s'il était malade. « Eh bien, c'est l'homme qui a épousé une fille, qui avale par jour 50 couleuvres de femmes qui ne veulent pas recevoir la sienne, ou d'hommes qui ont couché avec elle. On les voit, elle lui tord de la bouche. regarder un jour le sourcil circonflexe qu'il a quand il rentre pour voir qui il y a chez lui. La malveillance avec laquelle Bergotte parlait ainsi à un étranger, d'amis chez qui il était reçu depuis si longtemps, était aussi nouvelle pour moi que le ton presque tendre que chez les Swann il prenait à tout moment avec eux. Certes, une personne comme ma grand-tante, par exemple, eût été incapable avec aucun de nous de ces gentillesses que j'avais entendu Bergotte prodiguer à Swann. Même aux gens qu'elle aimait, elle se plaisait à dire des choses désagréables. Mais hors de leur présence, elle n'aurait pas prononcé une parole qu'ils n'eussent pu entendre. Rien, moins que notre société de Combray, ne ressemblait au monde. Celle des Swann était déjà un acheminement vers lui, vers ses flots versatiles. Ce n'était pas encore la grande mer, c'était déjà la lagune. « Tout ceci de vous à moi, » me dit Bergotte en me quittant devant ma porte. Quelques années plus tard, je lui aurais répondu « Je ne répète jamais rien. » C'est la phrase rituelle des gens du monde par laquelle chaque fois le médisant est faussement rassuré. C'est celle que j'aurais déjà ce jour-là adressée à Bergotte, car on n'invente pas tout ce qu'on dit, surtout dans les moments où on agit comme personnage social. Mais je ne la connaissais pas encore. D'autre part, celle de ma grande-tante dans une occasion semblable eût été « Si vous ne voulez pas que ce soit répété, pourquoi le dites-vous » C'est la réponse des gens insociables, des mauvaises têtes. Je ne l'étais pas, je m'inclinais en silence.